Salut, c'est Steven Jambot de l'Atelier des médias. L'émission que vous allez écouter est la dernière de la saison. Aussi, pendant 20 minutes, j'ai choisi de vous recommander des podcasts à découvrir ou redécouvrir durant ce mois d'août qui débute. Tous ont en commun d'être liés de près ou de loin avec le monde de l'information.
C'est une règle d'or, une information doit être vraie et objective, autrement dit, elle doit décrire la réalité, rien d'autre. C'est parfois difficile, puisque nous avons tous nos idées et nos préférences. Mais une information n'est pas une publicité vantant les mérites de quelqu'un ou de quelque chose pour en tirer un profit ou un avantage.
Commençons par un podcast d'enquête, un format que j'apprécie particulièrement. Colonel Raslan, la traque d'un bourreau, est un podcast qui raconte 8 mois d'enquête sur le colonel syrien Anwar Raslan. Cet ancien membre des services de renseignement est jugé en Allemagne depuis avril 2020 pour crime contre l'humanité. Ce podcast en 10 épisodes est un mélange de conversations, de reportages, d'entretiens et d'archives. Le tout est mené par le documentariste Brice Andlauer qui a suivi et questionné Lena Brustrom, une journaliste qui a enquêté sur les tortionnaires syriens pour le site lesjours.fr. Pendant 5h30, on entend témoigner des victimes de Raslan, des enquêteurs, des avocats ou encore des chasseurs de preuves syriens.
Je m'appelle Lena Brustrom, je suis journaliste indépendante et j'ai écrit une série d'articles sur Anwar Raslan et la traque des criminels de guerre du régime syrien pour le média en ligne Les Jours.
Je m'appelle Brice Andlauer, je suis réalisateur de documentaires audio. Mon travail ici, c'est de suivre Lena partout avec un micro, pour vous faire découvrir son travail au quotidien et avancer dans l'enquête avec elle. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux expliquer comment tu t'es retrouvée dans cette enquête ?
Alors c'est une longue histoire, mais en gros, ça fait plusieurs années que je m'intéresse aux questions de justice internationale et de défense des droits humains en tant que journaliste. Je couvre des procès pour crimes contre l'humanité et de manière générale les combats pour le respect des droits humains, les luttes contre les crimes de guerre pour plusieurs journaux de presse écrite. Et en février 2019, j'ai appris l'arrestation d'un colonel syrien, ancien membre des services de renseignement, un certain Anwar Raslan, sur qui j'ai enquêté pendant 8 mois.
Colonel Raslan, la traque d'un bourreau, un podcast produit par Les Jours pour la plateforme Audible. Et si les podcasts d'enquête vous intéressent, je vous rappelle qu'RFI a produit en janvier l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila, un thriller congolais, un podcast revenant sur la mort du président congolais dans son palais il y a 20 ans.
Le procès contre l'assassinat du chef de l'État n'est pas terminé.
Les enquêtes journalistiques sont parfois très complexes, qui plus est à l'ère numérique. Pour en comprendre les dessous, France Culture a créé le podcast Mécanique du journalisme, dont on fête déjà la 7e saison. Dans la saison 6, diffusée en mai, c'est un certain Elliot Higgins qui s'exprimait pour raconter l'enquête que son site Bellingcat a menée sur l'empoisonnement de l'opposant russe Alexei Navalny. Avec une bonne connexion internet et du temps, beaucoup de temps, l'équipe derrière Bellingcat a réussi à identifier le commando qui, au sein des services secrets russes, a ciblé Navalny.
J'ai un parcours plutôt inhabituel. J'ai commencé en amateur, sans aucune expérience dans l'enquête. Le journalisme ou bien la défense des droits de l'homme, rien de tout ça. Je passais juste beaucoup de temps sur Internet et je m'intéressais notamment au printemps arabe.
My kind of interest in the Arab Spring really came about when I grew up.
J'étais adolescent au moment de l'invasion de l'Irak, du 11 septembre, et j'ai donc commencé à m'intéresser à la politique, au Moyen-Orient, par le prisme de ces événements. Le printemps arabe a vraiment été un moment important. C'était extrêmement frustrant de voir que les gens qui relayaient les vidéos captées par les manifestants du printemps arabe étaient en majorité des conspirationnistes. Sur des images prises en Libye, ils repéraient un type à l'arrière-plan qui avait l'air blanc et écrivaient des commentaires de 800 mots pour expliquer que c'était la preuve que la CIA voulait renverser Kadhafi, etc. Et je ne voulais pas devenir ce genre de personnage. Je passais en revue les vidéos que les Syriens partageaient sur les réseaux sociaux et j'identifiais l'armement que l'on voyait à l'image.
Elliot Higgins, fondateur de Bellingcat, dans le podcast Mécanique du journalisme de France Culture. Je suis sûr qu'il y a parmi vous des férus de diplomatie. Si c'est le cas, je vous recommande vivement de vous abonner au podcast de mon confrère Antoine Mariotti, journaliste à France 24. Grain de sable, ce sont des entretiens d'une heure environ, principalement avec des anciens diplomates, mais pas que. Parmi les invités déjà reçus, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, l'ancienne ambassadrice palestinienne Leila Shahid, l'ancien ambassadeur français en Israël, aux Nations Unies et aux États-Unis Gérard Haro, ou encore le journaliste Charles Anderlin, qui couvre depuis plusieurs décennies les conflits au Proche-Orient.
Le monde arabe et Yasser Arafat ont raté une occasion historique de participer à l'initiative d'Anwar el-Sadat. Des négociations sur l'autonomie palestinienne, parce que Begin et Sadat ont signé non seulement le principe d'un traité de paix entre les deux pays avec la restitution du Sinaï à l'Égypte, des ambassades dans les deux pays qui n'ont jamais été remises en question. Et puis sur, il y a eu l'idée d'une autonomie palestinienne. Begin, tant bien que mal, a fini par accepter de signer l'idée de pratiquement d'autodétermination pour les Arabes de Palestine, les Arabes d'Eretz Israël, comme ils les appelaient. Et des négociations ont commencé au Caire, à Marna House, près de, pas loin des pyramides. Il y avait un représentant israélien. J'ai appris beaucoup plus tard que le représentant de l'OLP, du Fatah au Caire, était prêt à y aller. Il avait appelé Arafat, il avait appelé Abu Djihad, il avait appelé Mahmoud Abbas, je veux y aller, et Arafat le lui a interdit. Et il a été pratiquement mis sur la touche de l'OLP pendant quelques années, et même Abu Djihad a empêché un commando d'aller l'assassiner au Caire parce qu'il était dans l'idée du processus de paix avec Anwar el-Sadat.
Grain de sable, le podcast d'Antoine Mariotti, est disponible sur toutes les plateformes. Le podcast, c'est parfois un peu du théâtre et de la fiction. Prenez Le Théâtre des Indépendances, écrit par Vladimir Cagnolari pour le festival Africolor et diffusé par RFI. C'est un podcast théâtral où les pères des indépendances africaines racontent ce qu'ils n'ont pas pu dire de leur vivant. On entend Patrice Lumumba, Félix Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor ou encore le Guinéen Ahmed Sékou Touré, le président qui disait non.
Pour faire bref, quand en 1958 De Gaulle a posé la question du oui ou non, je n'étais pas d'accord avec mes camarades du RDA. Je voulais bien voter oui, mais nulle part dans la constitution que De Gaulle voulait soumettre à référendum, il n'était question de l'indépendance. La communauté qu'il proposait était, on ne peut plus, paternaliste. Nous ne serions plus français, mais nous ne serions pas non plus des citoyens africains de plein droit, puisque la majorité des décisions auraient été prises à Paris. Et puis, je n'étais pas d'accord non plus que nous soyons de petits États, chacun dans son coin, en tête-à-tête avec la grande France. Non. Mon idée était plus ambitieuse que cela. Dans ma vision, l'Afrique occidentale française aurait été une entité. Un État fédéral. Idem pour l'Afrique équatoriale française et enfin pour Madagascar. Et chacun aurait le même poids que la France dans cette communauté franco-africaine. En bref, nous nous parlerions d'égal à égal. Car au fond, c'est cela et seulement cela que nous voulions. Mais Houphouët-Boigny et le RDA en ont décidé autrement.
Le Théâtre des Indépendances est à écouter sur les sites et applis de RFI et sur toutes les applications de podcast. Vous pourrez aussi entendre les 6 épisodes sur l'antenne de RFI du 13 au 20 août à 16h10, temps universel.
RFI.
On ne parle jamais assez d'environnement, de climat, d'écologie. Aussi, je ne peux que saluer l'existence de Synchrone, un podcast dont la première saison porte sur la transition écologique en Allemagne et en France. Chaque épisode de Synchrone est produit en français et en allemand par deux jeunes journalistes, Chloé Cosson et Camille Sarrazin. Cette dernière est d'ailleurs une ancienne de l'équipe de l'Atelier des médias. Écoutons un extrait de leur épisode 6, « Comment la société numérique pollue ».
Alors, c'est difficile quand on envoie un mail ou quand on regarde une vidéo de se rendre compte qu'on pollue. Et pourtant, c'est le cas, Chloé. Même à l'écoute de ce podcast, mais surtout, n'éteignez pas. Les technologies numériques, en fait, ne sont pas du tout virtuelles. Déjà, c'est évident, mais il y a nos smartphones, il y a notre ordinateur. Il y a aussi des data centers dont on a beaucoup parlé dernièrement. Il y a également d'immenses câbles sous les océans et en fait tout cela est nécessaire pour l'échange d'informations qui est devenu notre quotidien. Est-ce que tu pourrais nous dire du coup, Chloé, à quel point ça peut polluer le numérique ?
Alors aujourd'hui, les technologies numériques polluent plus que le transport aérien civil. Ce sont des données du Shift Project, un think tank français qui plaide pour une économie post-carbone. Et d'ailleurs, en regardant les chiffres du Shift Project, j'ai eu un petit coup au cœur moi-même. Je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, et toi tu le sais Chloé, mais je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, même si j'essaye maintenant de me limiter un peu. Et donc d'après ce think tank, à l'échelle mondiale, le visionnage de vidéos en ligne a généré en 2018 autant de gaz à effet de serre que l'Espagne. Donc ça paraît énorme. Et donc face à cela, les experts prônent une sobriété numérique.
Traversons maintenant l'Atlantique pour aller au Québec, où Radio-Canada produit des balados toujours très bien pensés et réalisés. Conviction est portée par le journaliste Simon Coutu. C'est une incursion chez les opposants aux mesures sanitaires liées au Covid-19. Simon Coutu a suivi 4 figures complotistes québécoises. Un champion d'arts martiaux, un ancien policier, un militant chansonnier et une écolo-féministe. Le journaliste se pose des questions, tend son micro dans les manifestations et espère comprendre pourquoi ces gens virent complotistes, tournent le dos à la science et aux médias dits traditionnels.
Je m'appelle Simon Coutu et je suis journaliste à Radio-Canada. Depuis le début de la pandémie, je porte l'oreille aux mouvements qui s'opposent aux mesures sanitaires. On les surnomme les anti-masques, les conspirationnistes, les complotistes, les coucous, les covidios. Dans les salles de rédaction, on se demande si on leur accorde de l'attention, si on couvre leurs manifestations. Alors que dans les rues, ils sont souvent des milliers à protester. Depuis mars 2020, je couvre quotidiennement la crise qui a lieu dans ma ville.
Simon Coutu, vous serez nos yeux, nos oreilles dans cette ville, oui, endormie.
Aux nouvelles, il n'y a qu'un seul sujet, le coronavirus. Dans mes reportages, je parle avec le personnel soignant.
On essaie de vivre avec ça, mais c'est pas humain. Ben, physiquement, mentalement, on est brûlés.
Des ambulanciers, des infirmières et des médecins, tous sont exténués.
C'était la fête à mon fils hier, il a eu 17 ans. Je peux pas le serrer.
En pleine première vague, je mets mon masque, mes lunettes et une grande combinaison blanche et j'entre dans la zone chaude d'un hôpital temporaire situé dans un aréna de la salle.
Donc, on s'apprête à entrer dans la zone chaude. On a exactement le même matériel que tout le personnel soignant ici. Ça fait littéralement 5 minutes que j'ai ça au visage. Je peux comprendre que travailler avec cet équipement-là, ça peut être inconfortable éventuellement.
Après des semaines sur le terrain, il n'y a aucun doute pour moi que le virus est parmi nous, qu'il est contagieux et mortel. Et franchement, je l'admets, je ne comprends pas pourquoi certains s'opposent aux mesures sanitaires avec autant de vigueur. Selon un sondage Léger en collaboration avec le Journal de Montréal, réalisé en avril 2021, un Québécois sur 3 croit que la COVID-19 est une invention créée en laboratoire. Je veux saisir pourquoi ils sont autant à rejeter ce qu'ils appellent le narratif principal. C'est-à-dire qu'ils ne font plus confiance aux données scientifiques et aux faits rapportés par les médias.
Non, mais c'est ça. Moi, je fais juste prévenir le monde du danger d'un vaccin qui est dangereux pour la santé, qui a eu des décès à travers la planète.
Parce que c'est un système, oui, communiste, totalitariste, technocratique.
Les sorts ou les mauvaises intentions qui sont projetées dans la conscience collective de la part d'une certaine élite.
Qu'elle arrête les vrais criminels!
Et qu'elle arrête le père du COVID qui s'appelle
Arruda!
Parce qu'on fait des recherches, qu'on dénonce les sectes sataniques. Toi, t'es trop imbécile pour faire la recherche toi-même.
Et moi, comme journaliste, je serais complice d'un grand plan orchestré par l'élite mondiale. Je sais pas, mais j'ai pas reçu le mémo jusqu'à maintenant.
Conviction, un podcast de Radio-Canada à écouter sur l'application Audio. Les journalistes ne sont pas toujours les bienvenus partout. Sortir une caméra est parfois compliqué aussi. Il est parfois plus facile de sortir un micro ou un smartphone et d'enregistrer une conversation. C'est avec la seule force de l'audio que le média français Brut, pourtant un média d'image, a produit le podcast Défense de filmer. Les reporters de Brut font le pari, je cite, de nous faire entendre ce qu'ils ne peuvent pas nous montrer. Et c'est plutôt réussi. Dans un des derniers épisodes, un certain Haruna, incarcéré pour trafic d'héroïne, profite d'une permission de sortie pour confier ses souvenirs de convoyage de drogue et ses souhaits de réinsertion.
Haruna, c'est ce qu'on appelle un gros bonnet, un gros trafiquant de drogue. Il évolue dans un univers criminel, mais en discutant avec lui, on découvre une personnalité en totale contradiction avec ce milieu. Très proche de sa culture peul et sénégalaise, il a grandi dans un environnement marqué par l'engagement communautaire et religieux de ses parents.
Ma famille sont plutôt religieux, sont connus pour le côté religieux, ils ont des écoles coraniques, ils sont connus avec des grandes confréries là-bas. Les personnes qui font des séminaires, qui vont à l'étranger, on les appelle, c'est des gens qui sont reconnus pour ça. J'ai jamais laissé la religion, c'est parce que je sais que j'allais pas faire toute ma vie dans le carrière dessus. Donc j'ai toujours fait en sorte de, même si j'étais dans le stupéfiant, ce qu'on m'a inculqué avec ma famille, ça, il fallait pas que je le délaisse au nom de l'argent ou au niveau du stupéfiant, tu vois. Parce qu'à la finale, je me retrouvais avec Dieu. À la finale, je me retrouvais, moi, ma prière et Dieu. Je vais pas me retrouver, moi, des kilos et des kilos et des kilos ou de la thune et Dieu. Non, je me retrouvais, moi, ma religion et Dieu. Une anecdote, parfois, je reviens sur la route, il est 4h du mat. Il est l'heure du prière de Fajr, ben, je m'arrête à une station d'essence, je fais mes ablutions, je prie et je repars, je suis chargé. Je peux pas rattraper, je peux que changer. Je peux essayer que changer. Rattraper, c'est mort. Celui-là qui dit peut rattraper 4 ans ou une dizaine d'années de prison, c'est impossible. C'est impossible, c'est infaisable, c'est perdre du temps, c'est perdre de l'énergie. Non, c'est pas possible. Ce qui est fait, il vaut mieux l'assumer et voir comment essayer de réhabiliter tout ça, tu vois. Moi, je vois ça comme ça. J'ai perdu du temps, parce que le temps, tu peux pas le remplacer par de l'argent. Tu peux pas le remplacer par l'argent. Moi, j'ai pas vu mon fils grandir. J'ai pas vu ma fille grandir. Avec ma femme, ça fait 14 ans cette année qu'on est mariés. On a dû vivre ensemble, vraiment ensemble, 4 ans. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, tu peux pas le remplacer. Là, par l'argent, par ce que tu veux. Tu peux pas, et c'est les meilleurs moments de ta vie, tu vois. Et je me suis marié tôt, j'avais 26 balais, aujourd'hui j'en ai 40. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai pas fait nombreuses années avec ma femme, sur le nombre d'années pro rata avec lesquelles je suis marié avec elle. J'ai pas été assisté à la naissance de mon fils, j'ai pas grandi avec lui, il n'a pas grandi avec moi. J'ai assisté à la naissance de ma fille, mais elle n'a pas grandi avec moi. Ça, c'est sans compter côté affectif au niveau des parents, tu vois. Il y a ma mère, il y a mon père dans l'affaire, dans cette histoire-là. Tu vois ce que je veux te dire? Ils en ont pris un sacré coup, tu vois.
Défense de filmer, un podcast de Brut, à écouter sur Spotify. Avant de se quitter, place à Mondoblog Audio, qui chaque semaine fait entendre les blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Fumilayo Assanvi écrit régulièrement sur les podcasts, mais aussi sur la radio. En juin, il a signé un article intitulé « La radio en Afrique, un média carrefour à réinventer ».
L'Afrique n'est pas restée à l'écart du mouvement expansif de la radio. Elle lui a d'ailleurs imprimé une marque avec les langues locales qui ont su s'inviter sur les ondes. Ce média est donc clairement un média de référence en Afrique. On dit que la radio est un média carrefour. La radio est en fait l'un des premiers médias à avoir fait son apparition sur le continent. Elle a connu un grand succès. Ce média a la faculté de relier l'urbain et le rural. La radio parle à tout le monde. Si les journaux, eux, ne sont accessibles qu'à ceux qui sont lettrés et qui savent lire en français, La radio, elle, est accessible pour peu que votre ouïe fonctionne. Les programmes radio ont donc très rapidement conquis le cœur des Africains qui, pour la plupart, ne comprennent pas le français et qui se sont vus proposer de plus en plus de programmes dans leur langue locale. Ce succès de la radio a également été facilité par la forte prédominance de l'oralité dans les traditions africaines. L'information était très souvent relayée par des griots, des crieurs publics, et les épopées étaient racontées au clair de lune en conte. La radio est donc rapidement devenue un média carrefour qui rassemble tous les Africains, qu'ils soient lettrés ou non, qu'ils vivent en milieu urbain ou en milieu rural. Les radios se sont donc de plus en plus implantées sur le continent en ayant plusieurs objectifs ou rôles. Les émissions dans ces langues locales pilulent et de nouvelles langues sont désormais couvertes par les émissions radio. Mais malgré ce statut de média référence en Afrique, la radio est fortement menacée. Ce constat est corroboré par les derniers chiffres de mesure de l'audience radio en Afrique. On constate que cette audience est en baisse chaque année. Comparativement aux autres médias, la radio a perdu son rang de média favori des Africains. Pendant que 92% des Africains passent en moyenne 4 heures de temps devant la télévision, seulement 62% écoutent 2 heures en moyenne la radio. La télévision vole la vedette à la radio ces dernières années. Ces chiffres s'expliquent aussi par le fait que la radio en Afrique peine à se réinventer. Les émissions sont les mêmes depuis des années et les formats restent assez rustiques. De plus, très peu de radios profitent des espaces digitaux et des terminaux connectés pour accroître leur audience. Ajoutons que les radios étrangères arrivent à captiver l'audience encore mieux que les radios locales. On peut constater par exemple que RFI fait partie des 3 radios les plus écoutées dans 7 des 8 pays africains sondés par Kantar en 2020. Preuve de la faible attractivité des radios locales. Mais doivent-elles pour autant laisser la radio, ce média carrefour, mourir sur le continent? Non. Il faut réinventer la radio, corriger la grille des programmes. Les radios locales doivent investir dans de nouveaux formats très peu présents en radio sur le continent. Le podcast fait partie de l'écosystème digital négligé par bon nombre de radios. S'il est vrai que beaucoup d'entre elles ont des sites web et sont audibles en ligne, très peu proposent des podcasts de replay des émissions ou des podcasts natifs. L'abandon de tout ce secteur de l'audio digital est clairement une niche à réexplorer pour un regain des radios africaines. Redonner à la radio ses lettres de noblesse et la maintenir au rang de média carrefour passera par ses actions.
Mondoblog.org.
Le blogueur béninois Fumilayo Asanvi à lire et écouter sur fumi.mondoblog.org. C'est ainsi que se termine cette émission qui était pour son valeureux réalisateur Simon De Creuse et moi-même la dernière avant quelques semaines de vacances. Nous serons ravis de vous retrouver le dimanche 5 septembre sur RFI et la veille en podcast. Si vous aimez l'atelier des médias de RFI, on vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre podcast sur toutes les applications possibles et imaginables, Spotify, Podcast Addict, Castbox, Apple Podcast ou encore l'appli Radio France. Vous pouvez nous écrire via les réseaux sociaux ou à l'adresse atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous tout début septembre pour une nouvelle saison de l'Atelier des médias.